Bonjour à tous et bienvenue sur A Bold with Care, le podcast qui facilite la vie des expats. Je m'appelle Emmanuel et depuis plusieurs années, j'aide les expatriés à tirer le meilleur de leur expérience à l'étranger. Vous m'avez peut-être connu dans le podcast En éclaireur et je suis ravie de vous retrouver ici. Avec A Bold with Care, vous allez connaître les réponses à toutes vos questions pratiques sur l'expatriation. Budget, famille, carrière, prenez des notes pour ne rien rater des conseils de chaque épisode. Ce podcast est créé par April International, le leader de l'assurance santé expatriée avec plus de 150 000 assurés dans le monde entier. À quoi ressemble l'expatriation à l'aube de 2024? Le Covid a tout bouleversé et si les aventures à l'international repartent de plus belle, on ne s'expatrie plus de la même façon aujourd'hui. Alix Carnot, directrice d'Expat Communication, en sait quelque chose. Depuis 10 ans, elle interroge les expatriés et aujourd'hui, elle nous révèle les principales conclusions des dernières enquêtes qu'elle a menées. Alors, comment préparer votre changement de vie? Comment préserver sa famille quand on part au bout du monde? Et quelles sont les erreurs que vous pouvez éviter? Dans cet épisode, vous saurez tout pour faciliter votre grand départ. Bonjour Alix. Je suis ravie de t'accueillir au micro de Bold with Care. Pourrais-tu tout d'abord te présenter pour nos auditeurs et partager ta propre expérience d'expat?
Bonjour, je suis Alix Carnot, je suis directrice associée d'Expat Communication. Pour moi, perso, je suis une ancienne expat. Ça fait 10 ans que je suis rentrée maintenant d'un parcours d'une 15aine d'années. On est parti d'abord à La Rochelle, ce qui était un premier gros changement pour la parisienne de souche presque incurable que j'étais. Donc après ce palier de décompression, on est parti en Australie, puis on est revenu à La Rochelle, puis on est parti à Barcelone, puis on est revenu à La Rochelle. Ensuite, on était à la Rome et on est rentré à Paris. Et avant de me marier, j'avais passé pas mal de temps aux États-Unis et en Centrafrique.
Ouais, donc tu connais vraiment bien l'expatriation.
Non, j'ai suffisamment bougé pour voir que j'en connais un tout petit bout.
Ok.
Parce que c'est l'expatriation, c'est grand comme le monde. Hein. On a jamais fini d'explorer, mais ça m'a donné une bonne variété de sujets et plein de questions que j'avais envie de creuser.
Et c'est ça que tu fais avec Expat Communication?
Exactement, bah, comme beaucoup de personnes qui ont pas mal bougé, ça m'a permis d'affiner mon projet professionnel et ce que j'avais envie de faire. Chaque fois qu'on bouge, on se repose des questions, on est confronté à des nouvelles possibilités. Donc ça permet de se rapprocher de ce qui nous correspond le mieux. Et la mission d'Expat Communication, c'est vraiment complètement en phase avec mon projet professionnel. C'est identifier et transmettre les clés d'une expatriation réussie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Identifier les clés d'une expatriation réussie, ça veut dire avoir un baromètre de l'expatriation où tous les trimestres, on pose un certain nombre de questions aux expats, ce qui nous permet de mieux comprendre à la fois l'impact de la mobilité internationale sur la famille expatriée et sur les carrières, mais aussi les évolutions, parce que c'est, on en reparlera, la mobilité internationale, ça évolue énormément. Donc, ça vaut le coup de suivre de très près ce qui se passe. Et une fois qu'on a identifié un certain nombre de leviers grâce au baromètre, on va les transmettre chez Expat Communication et on va les transmettre à travers des guides de l'expatriation, à travers des sites internet, dont le plus connu est Femmes Expat, mais il y en a un autre qui s'appelle le Club Expat Premium, et puis des services de coaching et de formation pour les expats, et on va dire de façon plus générale pour les talents internationaux.
Et c'est ça à quoi on va s'intéresser en effet avec toi aujourd'hui, à quoi ressemble cette mobilité internationale en 2023. L'expatriation a beaucoup évolué ces dernières années avec le Covid, et ce qui m'intéressait beaucoup, Alix, de voir avec toi, c'est en effet aujourd'hui, suite au baromètre, suite à tous les expats avec qui vous pouvez échanger au quotidien avec Expat Communication, c'est quoi un peu le profil de l'expat en 2023? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu le caractériserais un petit peu, alors sans le mettre dans une case, mais peut-être qu'il a un profil particulier aujourd'hui par rapport à il y a quelques temps?
Oui, clairement. Qu'est-ce qu'il définit par rapport à l'expat des années 2000, par exemple, ou par rapport à un Français qui bouge pas? Et on peut regarder à travers ces deux prismes. Si je commence par le Français qui bouge pas, qu'est-ce que l'expat a en plus ou en moins? Il vient souvent d'une grande ville, il est souvent assez, voire très diplômé, et c'est un peu tout ce qui va le distinguer de quelqu'un d'autre. Après, ce qu'il distingue de l'expat des années 2000, c'est que dans les années 2000, il y avait encore une majorité d'expatriés qui étaient envoyés par leur entreprise. C'était « Bonjour Julien, on a un projet au Guatemala, est-ce que tu veux partir au Guatemala ?» C'était ça quand même la majeure partie des expatriés, et c'était du coup la principale raison pour laquelle les gens partaient, c'était le boulot. On m'a proposé un job, donc j'y vais. Ça a complètement changé, et c'est pas dû au Covid. C'est quelque chose qui est dû à des mouvements de société plus anciens et plus profonds. Aujourd'hui, dans la vie de la plupart de nos contemporains, la valeur la plus importante, c'est pas le travail, c'est réussir ma vie dans toutes ses dimensions. Et donc, si je vais partir en expatriation, c'est pas parce que ma carrière le demande, c'est même pas pour réussir encore mieux ma carrière, c'est pour réussir mieux ma vie. Donc, c'est d'abord le premier moteur de l'expat 2023, c'est l'aventure familiale et personnelle, c'est grandir en étant confronté à l'ailleurs.
Donc, il y a des leviers motivationnels qui sont aujourd'hui différents. Et est-ce que le Covid a quand même eu une influence sur les aspirations des expats?
Ça a accéléré ce mouvement. Ça a, dans une certaine mesure, redonné à l'expat son caractère d'aventure. Parce que, comme c'est un des verbatims que je préfère dans les enquêtes qu'on a pu faire, une femme qui disait « Avant, j'habitais à 6 heures de vol de Paris. Maintenant, je suis à 2000 km. C'est beaucoup plus long. » ce qu'elle voulait dire, c'est avec les travel ban, s'il n'y a plus d'avions, tout à coup, le monde redevient une aventure. Donc oui, là-dessus, le Covid a remis un peu de solennité, peut-être, dans l'expat. Tu vois, le fait que, en fait, ça peut être pour de bon. On peut être coincé, je pense à tous ceux qui ont été en Chine, on peut être coincé pendant 3 ans dans son pays d'expat. Il y a des familles qui ne sont pas vues pendant 3 ans, donc ça, voilà. Ça reprend un peu, tu sais, le côté avec les goélettes à Brest. On agite son mouchoir et on se dit adieu. Voilà, c'est plus juste. Je fais un aller-retour. Et paradoxalement, en même temps, on a des expats qui sont beaucoup moins définis qu'avant. Puisque c'est plus l'expat corporate, j'ai envie de dire à la papa. Enfin, ça n'est plus majoritairement, parce que l'expat full package, il existe toujours et il se porte bien. Mais juste, il est devenu très minoritaire. Mais comme maintenant, la plupart du temps, c'est la famille ou l'expat qui part à sa demande, on va avoir des formes d'expat beaucoup plus diverses. Entre, donc toujours, je disais, l'expat full package qui part envoyé par un grand groupe avec l'école des enfants qui est payée et les 2 allers-retours, ça existe toujours. Mais il y a aussi le contrat local plus. Là, c'est au lieu de dire Jules, on t'envoie, c'est Jules, si tu veux, tu peux partir et on arrête ton contrat en France, mais on te payera l'école des enfants et ton appart. Mais c'est ta responsabilité et donc c'est toi qui assumes le risque et tu perds ton contrat français. Ou c'est Jules tout seul qui se dit si j'allais aux États-Unis et qui cherche son visa et qui cherche l'entreprise, où on peut avoir des formes toujours liées à l'entreprise mais qui sont plus diffuses et qu'on voit de plus en plus du style du commuting. Jules, il faudrait que tu ailles à Melbourne. Oui, enfin non, Melbourne, tu ne le feras pas, mais à Stuttgart. Ah oui, mais ma femme ne veut pas, donc Jules, il fait les allers-retours toutes les semaines et il n'est à Stuttgart que 4 jours.
Ça se voit de plus en plus, ouais.
Ah, c'est majeur.
Ah oui.
Ah oui, okay. C'est majeur. Et les entreprises qui, il y a 10 ans, nous disaient ah non, chez nous jamais. On est contre ce genre de pratique parce que l'expat est pas sur place, il vit pas vraiment la culture. Il a pas tous les bénéfices de l'expérience d'expatriation et puis c'est trop crevant pour lui. Et puis c'est administrativement trop compliqué. Maintenant, on a même des responsables de la mobilité internationale de grands groupes qui vivent sur ce modèle-là.
Ah, intéressant. C'est vrai que ça, c'est un modèle dont on parle moins, je trouve, peut-être qui est un peu moins visible, mais en fait, ça se développe pas mal. Et en effet, malgré les contraintes qu'on pourrait penser en termes de fatigue, de déplacement, de temps...
écologique aussi.
Écologique, malgré tout, ça se développe.
Finalement, je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'une autre catégorie dont on parle énormément, qui est celle des digital nomades. Mmh. Donc celui qui dit bah là c'est nous qui n'ayant plus réellement de contraintes de présentiel au bureau partons bosser dans des paradis de travail que ce soit l'île Maurice, que ce soit le Portugal, que ce soit enfin de plus en plus de destinations qui s'équipent pour recevoir les gens ou des destinations mouvantes. Mais ça c'est finalement des modèles alors très à la mode, très médiatiques, mais qui sont encore assez limités en fait.
Et dans ce modèle d'expatriation de plus en plus tourné vers un retour à l'aventure, comme tu le disais, comment se préparer au mieux à partir à l'étranger, à s'expatrier aujourd'hui en 2023 ?
Pour se préparer au mieux, déjà, il faut se préparer. Ça peut paraître élémentaire, mais ça l'est pas tant que ça. Je pense qu'on est dans une civilisation de l'immédiateté où tout semble très simple. On a beaucoup aboli les distances. Avec le digital. Ce qui fait, et en plus, la plupart des gens qui partent aujourd'hui ont déjà eu des expériences internationales. Alors, pas d'expatriation, mais d'Erasmus, de stages à l'étranger, de voyages professionnels ou de tourisme tout simplement. Ce qui fait que beaucoup de gens appréhendent moins le fait de partir vivre à l'étranger que c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Mmh. Ça, c'est positif, parce que du coup, ils sont positifs, enfin, tu vois, ils partent confiants, et tant mieux. Le revers de la médaille, c'est que du coup, pour se préparer, ils se contentent de s'informer, et cette information est essentiellement digitale. Donc, nous, on est ravis, hein, ils vont sur le site Femme Expat, le super guide de l'expat sur Femme Expat, c'est très bien, bravo, c'est recommandé. Sauf que dans le guide de l'expatriation sur Femme Expat, on va leur dire que ça ne suffit pas de lire ou d'aller regarder s'il se raconte dans 2-3 forums avant de partir.
Qu'est-ce qu'il faut faire en plus, alors ?
Il faut d'abord vérifier son équipage, c'est-à-dire souvent on part en couple, voire en famille, et il faut être sûr que chacun ait dans le projet son projet à lui. C'est pas juste un projet de couple, c'est un projet pour chacun. Et là, il y a la question qui est celle du conjoint accompagnateur, et quelle va être par exemple la place du conjoint, est-ce qu'il pourra travailler ? C'est vraiment une des pires prisons qu'il puisse y avoir pour un conjoint, c'est si on n'était pas très sûr des possibilités pour lui d'avoir un visa de travail et de se rendre compte que finalement, c'est pas possible. Ou même au-delà du visa de travail, des conditions d'employabilité dans le pays où il va. Donc, est-ce que les deux pourront travailler ? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que chacun va faire ? Quel est son projet ? À quoi chacun va devoir renoncer ? Quels sont les critères indispensables pour que chacun puisse s'épanouir ? La même chose pour les enfants. Quelles vont être les difficultés pour eux, quel style de scolarité on veut, derrière quel projet de vie on a pour eux. Et puis, quand on prépare son expat, on prépare les aspects administratifs. Alors ça, en général, les gens y pensent.
C'est pas le plus drôle, mais on y pense.
Ouais, on y pense sérieusement, on pense bien à la santé. Hein. Pour nous, les Français, tu sais, c'est un peu comme dans le film Gravity, où on voit l'astronaute là, qui est dans l'espace et il n'a pas l'habitude d'être sans gravité et il ne pense pas qu'il faut tenir ses outils, parce que sinon ils vont partir tout seuls. Nous, les Français, on n'est pas du tout habitués à l'idée que le système de santé n'est pas une évidence. Et que si on ne l'a pas balisé, le retour de bâton peut être extrêmement violent. Donc voilà, on prépare son assurance santé, on prépare les détails, hein, quels sont les différents risques, maternité, accident, retraite aussi. C'est pas un risque, c'est une certitude. Quelles vont être les conséquences de mon expatriation ?
Peut-être faisons un focus sur la santé, parce qu'en effet, c'est un sujet qui est important et qu'on a du mal à anticiper, parce que avec notre culture de Français, on a tellement l'habitude d'être pris en charge dans notre pays avec un système de santé qui non seulement est de plutôt bonne qualité, mais surtout on a une très bonne protection. Comment ça se passe à l'étranger ? Comment, au-delà de ce qu'on peut lire sur un blog, on peut anticiper différents risques santé et s'assurer qu'on se protège bien et qu'on protège bien sa famille ?
La première chose à faire, c'est se souvenir des différents risques. Il y a le risque santé, mais c'est quoi ? Maladie, accident, maternité, les enjeux de conception peut-être, dans les, ce qu'on appelle les risques, même si c'est pas un risque, je disais, il y a la retraite. Tous ces éléments-là, il faut les décomposer pour voir quel va être l'impact sur mon expatriation et comment est-ce que je vais me protéger pour ça. Et il faut voir des experts. Et le conseil que j'aurais en permanence, c'est parlez-en à des expats. Ne vous contentez pas de lire. Appelez des gens dans le pays où vous allez aller. Donc ça, pour ça, les forums, c'est génial. C'est sur un groupe Facebook et puis vous cherchez à avoir quelques noms. Vous les contactez en MP. Et derrière, le but, c'est vraiment d'avoir un échange avec eux parce qu'il y a plein de choses qu'ils vous diront dans le cours de la conversation qui sont des choses qui ne vous auront pas effleurées. C'est toujours hyper difficile de prévoir des choses dont on n'a jamais entendu parler, des situations qu'on n'a jamais envisagées. Avec deux, trois discussions avec des expats dans ce pays-là, vous pourrez avoir des réponses. Sur le plan de la santé, de toute façon, vous appelez, il faut être rassuré avant de partir, soit par votre employeur, soit parce que vous prenez une assurance santé avant de partir. Et là, vous appelez des prestataires et vous discutez avec eux. Et en discutant avec eux, c'est là qu'ils vous expliqueront les différents enjeux et les différences entre les différentes polices.
Comme tu dis, ces échanges permettent vraiment de mettre le doigt sur des informations, des anecdotes, des histoires dont on n'aurait pas connaissance sinon. C'est les expatriés en tout simplement racontant un peu leur quotidien qui nous font prendre conscience de certains éléments dont on peut pas avoir conscience si on n'a jamais vécu l'expatriation jusque-là.
Souvent, on n'ose pas parce qu'on est dans une logique de gens qui n'ont pas bougé, donc un petit peu fermés, en disant je vais déranger, je suis pas légitime, pourquoi est-ce que cette personne le ferait ? Et le trésor de l'expat, c'est la solidarité. On ne peut pas survivre en expat si on est tout seul et si on n'est pas aidé par les autres. Et donc, on se met à aider les autres aussi. Et donc, les gens que vous allez contacter, ils ne vont pas être surpris par cette démarche. Ils l'ont fait eux-mêmes et ils sont fréquemment sollicités. Et si ça se trouve, ça sera des amis après. Donc, en général, quand on est en expat, on est habitué à être sollicité et ça ne nous surprend pas. Et on sait que c'est normal. Sans entraide, il n'y a pas d'expat.
C'est un excellent point que tu soulignes ici, en effet. J'ai toujours été impressionnée par cette solidarité dont tu parles entre les expats, qui est formidable dans n'importe quel coin du monde. En effet, tu peux solliciter d'autres Français et il y a cette sorte de pacte entre nous qui va faire que oui, tu vas aider les personnes qui te demandent de l'aide, qui te posent des questions avec grand plaisir parce que toi-même tu l'as fait auparavant. Ça m'amène à une autre thématique dont j'aimerais parler avec toi, Alix, c'est justement l'intégration. Comment faire pour préparer ou pour s'intégrer une fois sur place dans l'environnement, dans le pays dans lequel on arrive?
Ah bon, j'imagine que ceux qui nous écoutent sont extrêmement différents, donc ils arrivent avec des réflexes et des approches très variées. Je sais que par exemple, pour moi, mon prisme, mais parce que je suis une aventurière et que j'aime bien les trucs, tu vois, vécus à fond, quand j'ai débarqué là. En fait, parce que c'était mon histoire, j'étais partie en Afrique, j'étais au fin fond de la brousse, avec quasiment que des Africains et dans une immersion hyper profonde, et c'était passionnant, aux États-Unis, au fin fond du Middle West, je n'avais vu que des Américains. Ce qui fait quand j'ai vécu une vraie expat en famille, la première était en Australie, je m'étais dit je ne verrai que des Australiens, je ne vais quand même pas à l'autre bout du monde pour voir des Français. Et je pense que ça n'était pas une bonne idée. Parce qu'en fait, à moins d'arriver avec un job et des choses très précises qui apportent quelque chose aux gens, qui fait qu'ils vont s'ouvrir, et là je pense notamment aux conjoints, les gens ne nous attendent pas. Moi, je me pose toujours la question aux expats. Là, dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, vous avez eu combien de fois des étrangers à dîner chez vous? Combien de fois est-ce que vous avez accueilli quelqu'un qui venait d'arriver en France? Généralement, les gens piquent du nez. Mais moi, la première, hein. Enfin, moi, c'est mon job, mais si c'était pas ça dans ma vie perso, je le fais quand même pas tous les jours. Et c'est pareil pour les gens que vous allez rencontrer à l'étranger. Donc, il faut trouver des leviers pour pouvoir s'intégrer et c'est pas naturel, c'est pas simple. Le premier levier, en fait, c'est les Français de l'étranger qui sont, donc on disait, très ouverts et qui sont souvent un pont vers le pays. Ils nous raconteront plein de trucs, ils nous attendent, ils sont contents de nous voir. Ça va être peut-être un premier moyen de sociabilisation. Et là, il faut pas qu'il y ait de jugement de valeur. Moi, je vous dirais, j'ai pas envie que ça s'arrête là, je pars pas à l'étranger pour voir que des Français. Mais ça, c'est un jugement de valeur. il y en a qui veulent s'arrêter là parce que déjà, ils ont fait cet énorme bond d'aller habiter dans un autre pays, d'être confrontés au quotidien à une autre langue. Et ils vont voir au quotidien essentiellement des Français, mais ils ont déjà monté une haute marche. Et ça, on est tous différents, chacun de se connaître. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'intégration, qu'est-ce qui va marcher ? Il y a ceux qui bossent, c'est sûr que le travail, c'est un super levier d'intégration. L'école des enfants aussi, évidemment, si on met ses enfants à l'école locale. Et puis après, il y a toutes les activités qu'on peut faire et passer, et je pense que le meilleur levier d'intégration après le boulot, c'est le bénévolat. Et les Français, on n'est pas le peuple où il y a le plus de bénévoles au monde, mais dans la plupart des autres pays, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde. Et donc, il y a l'aide bénévole, je sais pas, pour la Croix-Rouge, pour des friperies, pour l'association pour l'association de l'école ou des choses comme ça. C'est une façon de sociabiliser qui est hyper développée et efficace. Et on peut se faire vraiment des super amis comme ça. Après, il faut aussi s'intéresser à la culture du pays où on va pour comprendre les codes.
Et ça, c'est pas évident. Toujours. Et ça prend du temps.
Il faut se renseigner. Et c'est là que c'est indispensable de rencontrer d'autres étrangers. Parce que c'est compliqué. Moi, quand j'étais jamais partie vraiment à l'étranger, quand on me disait qu'est-ce qui est spécifique de la culture française, j'étais incapable de répondre à cette question. Parce que c'est comme si on demandait à un poisson de décrire ce que c'est que l'eau. Si j'ai pas manqué d'eau, si j'ai pas vu ce que c'était clair ou autre chose, je peux pas vous raconter l'eau. Et je pense qu'on devient français quand on quitte la France. Avant, on sait pas. On est parisien, on est marseillais, on est nantais, mais on n'est pas vraiment français. Et de même, pour expliquer à quelqu'un comment s'intégrer dans un pays, c'est pas les locaux souvent qui sont les mieux placés, c'est les autres étrangers et qui vont vous faire comprendre que peut-être que votre façon de sociabiliser à vous, elle est hyper particulière. Les Français, on invite les gens à dîner. Pas beaucoup de pays où on reçoit chez soi. Et quand en Australie, j'invitais mes voisins à dîner, ils étaient un peu gênés. D'abord, ça les saoulait, un dîner assis qui dure 2 heures. C'est un cauchemar, en fait. C'était un traquenard. En Australie, on sociabilise avec le barbecue, où c'est bring your own. Chacun apporte son repas. Donc, si vous débarquez au barbecue les mains vides, vous passez pour quelqu'un de pas très bien élevé. Et donc, ça, c'est vraiment les Français sur place qui pourront vous le raconter, vous le décoder.
C'était très riche, Alix. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier apprentissage suite au baromètre que vous avez sorti il y a quelques mois sur Expat Communication que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ?
Oui, ce qu'on voit, c'est vraiment un leitmotiv du baromètre. C'est un truc qui nous agace parce que ça fait 10 ans qu'on dit la même chose et que ça bouge pas des masses. La phase la plus difficile de l'expatriation, c'est le retour. Il y a quand même 75% des expats qui disent « il est au moins aussi difficile de rentrer ». Et la moitié qui disent, enfin plus la moitié qui disent, c'est plus difficile de rentrer. Et plus les gens sont rentrés, d'ailleurs, plus ce chiffre est fort. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Je pense que c'est important de le dire à ce stade, parce qu'en fait, le retour se prépare au niveau du départ. Donc, quand tu disais tout à l'heure quelle est la bonne façon de se préparer, je pense que pour conclure cette question-là, il faut dire on se prépare bien en se demandant comment ça va se passer au retour. Et en laissant pas de poussière sous le tapis, parce que la plupart des gens qui disent, même ceux qui disent, de toute façon, je sais pas pour combien de temps que je pars et je reviendrai probablement jamais, finalement, il y a toujours d'une manière ou d'une autre un certain retour. Qu'est-ce qu'il faut pas laisser sous le tapis ? Les relations. C'est bête de partir brouillé parce qu'on va se retrouver un jour, ou si on se retrouve jamais, on va le regretter. Donc, tant qu'on peut laisser des fils ouverts, ça vaut le coup. On part en laissant une situation administrative hyper propre. Et je pense notamment au conjoint. Quand on démissionne, sur Femme Expat, il y a tout un truc sur la démission du conjoint, c'est important. Parce que c'est ça qui va permettre de retrouver ses droits à l'emploi quand on reviendra. On regarde la question de la retraite avant de partir. C'est indispensable parce qu'il y a. C'est vraiment compliqué l'histoire de faire coïncider ces différents systèmes de retraite au retour. On a tendance à se dire, de toute façon, les retraites, ça va disparaître. Il faut que je me débrouille tout seul. C'est pas si simple. Donc, on regarde avec la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il y a pas mal de tutos pour pouvoir estimer sa retraite et on la regarde. C'est bien utile pour être sûr que le retour, qui est quand même aussi une étape de l'expatriation, se passe bien.
Et ça nous permet de boucler la boucle avec la préparation du départ et la préparation du retour qui est en effet très importante. Je te remercie Alix. J'invite tout le monde à aller sur Expat Communication voir vos paramètres qui sont une vraie source d'informations phénoménales sur expatriation et également tous les autres contenus que vous pouvez avoir, notamment les guides que tu as mentionnés. Qui donne vraiment beaucoup d'informations. Et on a compris, c'est pas la seule chose qu'il faut faire. Je peux également aller échanger avec les expats pour dénicher d'autres conseils, d'autres recommandations tirées d'expériences vécues.
Merci Emmanuel.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Bold with Care. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater de nos conseils pour réussir votre expatriation. Vous souhaitez vous protéger pour partir à l'étranger en toute sérénité? April International est là pour vous. Rendez-vous sur april-international.com.